Poésie présente Nymphéa noire de Michel Bussy, lu par Marie-Ève Dufresne. À la mémoire de Jackie Lucas. Avec Monet, nous ne voyons pas le monde réel, mais nous en saisissons les apparences. F. Robert Kempf, L'Aurore, 1908. Non, non, pas de noir pour Monet, voyons. Le noir n'est pas une couleur. Georges Clémenceau, au pied du cercueil de Claude Monet, Michel de Decker, Claude Monet, 2009. Dans les pages qui suivent, les descriptions de Giverny se veulent les plus exactes possibles. Les lieux existent, qu'il s'agisse de l'hôtel Bodhi, du rue de l'Epte, du moulin de Chenevière, de l'école de Giverny, de l'église Sainte-Radegonde et du cimetière, de la rue Claude Monet, du chemin du Roi, de l'île aux Orties et bien sûr de la maison rose de Monet ou de l'étang aux Nymphéas. Il en est de même pour les lieux voisins, tels le musée de Vernon, celui des Beaux-Arts de Rouen, le hameau de Cocherelle. Les informations sur Claude Monet sont authentiques, qu'elles concernent sa vie, ses œuvres ou ses héritiers. C'est aussi le cas pour celles qui évoquent d'autres peintres impressionnistes, notamment Theodore Robinson ou Eugène Murer. Les vols d'œuvres d'art évoquées sont des faits divers réels. Tout le reste, je l'ai imaginé. Trois femmes vivaient dans un village. La première était méchante, la deuxième était menteuse, la troisième était égoïste. Leur village portait un joli nom de jardin, Giverny. La première habitait dans un grand moulin au bord d'un ruisseau, sur le chemin du Roi. La deuxième occupait un appartement mansardé au-dessus de l'école, rue Blanche Augedet-Monet. La troisième vivait chez sa mère, une petite maison dont la peinture au mur se décollait, rue du Château d'Eau. Elle n'avait pas non plus le même âge, pas du tout. La première avait plus de 80 ans et était veuve, ou presque. La deuxième avait 36 ans et n'avait jamais trompé son mari, pour l'instant. La troisième avait 11 ans bientôt et tous les garçons de son école voulaient d'elle pour amoureuse. La première s'habillait toujours de noir, la deuxième se maquillait pour son amant, la troisième tressait ses cheveux pour qu'ils volent au vent. Vous avez compris, toutes les trois étaient assez différentes. Elles possédaient pourtant un point commun, un secret en quelque sorte. Toutes les trois rêvaient de partir. Oui, de quitter Giverny. Ce si fameux village dont le seul nom donne envie à une foule de gens de traverser le monde entier juste pour s'y promener quelques heures. Vous savez bien pourquoi. À cause des peintres impressionnistes. La première, la plus vieille, possédait un joli tableau. La deuxième s'intéressait beaucoup aux artistes. La troisième, la plus jeune, savait bien peindre. Très bien, même. C'est étrange, vouloir quitter Giverny. Vous ne trouvez pas? Toutes les trois pensaient que le village était une prison, un grand et beau jardin, mais grillagé. Comme le parc d'un asile. Un trompe-l'œil. Un tableau dont il serait impossible de déborder du cadre. En réalité, la troisième, la plus jeune, cherchait un père, ailleurs. La deuxième cherchait l'amour. La première, la plus vieille, savait des choses sur les deux autres. Une fois pourtant, pendant 13 jours seulement, les grilles du parc s'ouvrirent. Très précisément, du 13 mai au 25 mai 2010. Les grilles de Giverny se levèrent pour elle. Pour elle seule, c'est ce qu'elle pensait. Mais la règle était cruelle. Une seule d'entre elles pouvait s'échapper. Les deux autres devaient mourir. C'était ainsi. Ces 13 jours défilèrent comme une parenthèse dans leur vie. Trop brève. Cruelle aussi. Cette parenthèse s'ouvrit par un meurtre, le premier jour, et se termina par un autre, le dernier jour. Bizarrement, les policiers ne s'intéressèrent qu'à la deuxième femme, la plus belle. La troisième, la plus innocente, dut enquêter toute seule. La première, la plus discrète, put tranquillement surveiller tout le monde et même tuer. Cela dura 13 jours, le temps d'une évasion. Trois femmes vivaient dans un village. La troisième était la plus douée, la deuxième était la plus rusée, la première était la plus déterminée. À votre avis, laquelle parvint à s'échapper? La troisième, la plus jeune, s'appelait Fanette Morel. La deuxième s'appelait Stéphanie Dupin. La première, la plus vieille, c'était moi. Tableau 1, impression. Premier jour, 13 mai 2010, Giverny. Attroupement. Chapitre 1. L'eau claire de la rivière se colore de rose par petits filets, comme l'éphémère teinte pastel d'un jet d'eau dans lequel on rince un pinceau. Non, Neptune ! Au fil du courant, la couleur se dilue, s'accroche au vert des herbes folles qui pendent des berges, à l'ocre des racines des peupliers, des saules, un subtil dégradé délavé. J'aime assez. Sauf que le rouge ne vient pas d'une palette qu'un peintre aurait nettoyée dans la rivière, mais du crâne défoncé de Jérôme Morval. Salement défoncé, même. Le sang s'échappe d'une profonde entaille dans le haut de son crâne, net, bien propre, lavé par le rue de l'Ept dans lequel sa tête est plongée. Mon berger allemand s'approche, renifle. Je crie à nouveau, plus fermement cette fois. « Non, Neptune, recule !» Je me doute qu'ils ne vont pas tarder à trouver le cadavre. Même s'il n'est que 6 heures du matin, un promeneur va sans doute passer, ou bien un peintre, un type qui fait son jogging, un ramasseur d'escargots, un passant qui va tomber sur ce corps. Je prends garde à ne pas m'avancer davantage. Je m'appuie sur ma canne. La terre devant moi est boueuse. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Les bords du rue sont meubles. À 84 ans, je n'ai plus vraiment l'âge de jouer les naïades, même dans un ruisseau de rien du tout, de moins d'un mètre de large, dont la moitié du débit est détournée pour alimenter le bassin des jardins de Monet. D'ailleurs, il paraît que ce n'est plus le cas, qu'il existe un forage souterrain pour alimenter l'étang aux nymphéas maintenant. Allez, Neptune, on continue. Je lève ma canne vers lui comme pour éviter qu'il ne colle sa truffe dans le trou béant de la veste grise de Jérôme Morval. La seconde plaie, plein cœur. Bouge, on ne va pas traîner là. Je regarde une dernière fois le lavoir, juste en face, et je continue le long du chemin. Rien à dire, il est impeccablement entretenu. Les arbres les plus envahissants ont été sciés à la base, les talus sont désherbés. Il faut dire, quelques milliers de touristes le fréquentent chaque jour, ce chemin. On y passerait une poussette, un handicapé en fauteuil, une vieille avec une canne, moi. Allez, viens, Neptune ! Je tourne un peu plus loin, à l'endroit où le rue de l'Ept se scinde en deux bras fermés par un barrage et une cascade. De l'autre côté, on devine les jardins de Monet, les nymphéas, le pont japonais, les cerfs. C'est étrange. Je suis née ici en 1926, l'année de la mort de Claude Monet. Pendant des années après la disparition de Monet, presque 50 ans, ces jardins furent fermés, oubliés, abandonnés. Aujourd'hui, la roue a tourné et chaque année, plusieurs dizaines de milliers de Japonais, d'Américains, de Russes ou d'Australiens traversent la planète rien que pour flâner dans Giverny. Les jardins de Monet sont devenus un temple sacré, une Mecque, une cathédrale. D'ailleurs, ces milliers de pèlerins ne vont pas tarder à débarquer. Je consulte ma montre. 6h02. Encore quelques heures de répit. J'avance. Entre les peupliers et les immenses pétasites, la statue de Claude Monet me fixe avec un méchant regard de voisin courroucé, le menton mangé par sa barbe et le crâne caché par une coiffe qui ressemble vaguement à un chapeau de paille. Le socle d'ivoire indique que le buste a été inauguré en 2007. L'écriteau de bois planté à côté précise que le maître surveille la prairie, sa prairie. Les champs, du rue à l'Ept, de l'Ept à la Seine, les rangées de peupliers, les coteaux boisés ondulés comme des vagues molles, les lieux magiques qu'il a peints, inviolables, vernis, exposés pour l'éternité.